Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Ça fonctionne? OK. Super. Fait que pour ceux-là qui sont peut-être avec nous pour la première fois ou qui nous visitent, on est à l'intérieur d'une série qui s'appelle L'Église, la famille de Dieu. Et puis, on a vu à date ce verset-là, ce beau verset-là qui est notre verset thème, qu'on va répéter ensemble. D'accord? On y va? Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes des concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Éphésiens 2, 19. Donc, on voit que l'Église, c'est une famille. Ce n'est pas en premier lieu un organisme, ce n'est pas une organisation humaine, malgré que les humains, on doit à quelque part s'organiser, mais en premier lieu, c'est Dieu qui a créé l'Église, c'est Jésus-Christ, c'est une famille. En premier lieu, c'est une famille. C'est ce qu'on a vu dans la première section, et voici plus en détail. L'Église est une famille dont le Père est né le fondement. Je vais aller rapidement parce que tout ça, c'est disponible sur Internet, sur le site Web. Les enseignements, vous les avez là. Merci, Maurice. Alors, il faut être adopté par Dieu pour en faire partie. Ce n'est pas en signant, ce n'est pas en étant né dans une famille qui appartient à l'Église que tu deviens un membre de l'Église. Là. Il faut être adopté par Dieu. Comment? À travers la repentance personnelle et par la foi en Jésus-Christ personnel. C'est un engagement personnel. Un coup que ça s'est fait, sincèrement, bien, Dieu dit qu'il nous adopte. La parole de Dieu nous dit que tu deviens un enfant adopté. Non plus esclaves aux principes rudimentaires du monde qui font « fais ci, fais pas ça, fais ci, fais pas ça », qui te rendent esclave. Non, tu es joui de nouvelle identité, liberté, intimité, héritage auprès de Dieu ton Père. Et de plus, il te donne son esprit qui te permet de le servir par amour et d'être réellement son enfant. Tu sais, on a dit que si, mettons, on pouvait adopter un enfant puis mettre notre ADN dedans, là, pour qu'il soit notre enfant vraiment biologique, bien, c'est ça que Dieu a fait pour ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. Non seulement il t'appelle enfant, tu es enfant, si tu as passé par Jésus-Christ, par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Maintenant, on est entré depuis deux semaines dans une nouvelle section sur la famille. Tout ce qu'on vient de dire là, c'est le fondement. C'est le fondement de l'Église. C'est ce que Dieu a fait et ce qu'il a fait pour nous et de nous. Maintenant, on entre dans une deuxième section qui traite des relations dans la famille de Dieu. Okay? Fait que là, on est plus dans l'idée de nos relations entre nous. Et puis, dans cette partie-là, j'aimerais que vous reteniez deux éléments conducteurs. Premièrement, comment Dieu, mon Père, a-t-il agi envers moi? C'est pour ça que c'est tellement important d'avoir jeté les bases du fondement, la fondation. Parce que tout ce qu'on va voir dans cette section-ci sur les relations dépend de ça. Donc, comment Dieu a-t-il agi envers moi? Ça devrait orienter comment j'agis envers les autres, n'est-ce pas? Et deuxièmement, comme Jésus dit, tout ce que vous aimeriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux aussi. Comment j'aimerais être traité, moi, dans la famille de Dieu? Bien, ça devrait guider aussi hein, ma façon d'agir. Ces deux éléments conducteurs, là. La semaine passée, on a vu l'élément de l'accueil. Puis, juste pour ceux qui ne savent pas ou qui ont oublié, l'Église ici, il y a quelques années, on a adopté une alliance relationnelle, un engagement sur plusieurs points, sur comment on va se traiter, comment on va se parler, comment on va agir et même réagir. Alors, des fois, ce n'est pas le temps agir que réagir qui est le problème. Hein? Mais il y a plusieurs points et qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre ça. Fait que si ça vous intéresse d'avoir la liste, bien, venez me voir, allez voir Robert, on peut vous l'envoyer, allez voir Jean, on peut vous l'envoyer par courriel. La semaine passée, on a vu l'accueil. Encore là, je vais rapidement. L'accueil. La Bible nous dit, dans Romains 15, 7, « Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Encore la référence, c'est qui? C'est Dieu, c'est Jésus. Comment le Père t'a traité? Si tu es son enfant? Il t'a accueilli comment?
Avec amour.
Avec amour, à bras ouverts. Est-ce qu'on ne devrait pas s'accueillir comme ça, hein, les uns les autres? C'est ce que Paul dit ici dans Romains 15. Ensuite, on a vu, la semaine passée, je vous ai fait participer, ceux-là qui étaient là. On n'était pas nombreux à cause de la tempête, mais on a vu trois différents événements dans la vie de Jésus où ce que Jésus a eu à accueillir, il a accueilli trois sortes de personnes différentes. Donc, on a vu premièrement les publicains, les gens de mauvaise vie, les gens qui étaient comme des escrocs, qui étaient comme les gens qui ne fitaient pas dans la société, qui faisaient des choses qui n'étaient pas acceptables. Jésus les a accueillis. On a vu ensuite, dans l'autre passage, un homme dangereux, un homme qui était possédé. Et comment est-ce que Jésus l'a accueilli? Et on a vu que nous, pas sûr, hein? On aurait peut-être pris nos pieds, comment est-ce qu'on dit ça? Ouais. Nos jambes à notre cou, c'est ça que je cherchais. Ouais, en voyant arriver un type de même. Mais Jésus l'a accueilli, pourquoi? Bien, on va le voir tantôt. Puis finalement, troisième passage, Jésus accueille les petits-enfants. Les disciples disaient, là, non, Jésus, c'est un homme important, il n'y a pas de temps pour ça, là. Allez-vous-en. Puis eux, ils voulaient que Jésus bénisse leurs enfants. Et Jésus a dit, hey, les gars, là, vous passez à côté de la traque, là, complètement. Laissez venir les enfants à moi, là. C'est que ça représente des gens insignifiants qui n'ont pas de statut dans la société. Les enfants de cette époque-là n'avaient pas de statut dans la société. Et Jésus les accueille à bras ouverts. Pas vrai? On a vu tout ça la semaine passée. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on a réalisé que Jésus, lorsqu'il rencontre quelqu'un, même si la personne comme moi n'est pas très aimable, je ne sais pas pour toi, mais Jésus a rencontré beaucoup de gens de toutes sortes, là. Jésus ne s'arrêtait pas à l'apparence ou à la personne, mais à quoi? Le cœur. Donc, Jésus regarde par-dessus l'apparence, par-dessus le statut social, par-dessus le comportement, au cœur de la personne. Pourquoi? Parce que Jésus aime la personne. Chaque être humain, pour Jésus, était sa créature. Et donc, précieux pour lui. Pas vrai? C'était sa façon d'agir et de voir. Et on a vu après ça que nous, souvent, ce qui arrive, c'est que nous, on rencontre les gens, puis bon, on a un mur de protection. On a ce mur de protection qui est tout à fait, dans notre tête, justifiable parce qu'on a vécu des choses. Les gens nous ont blessés, les gens nous ont rejetés, les gens nous ont méprisés, les gens ont abusé de nous, les gens nous ont menti, nos parents nous ont fait des choses, etc. Fait qu'on construit des murs autour de notre cœur. Mais qu'est-ce que ça fait, ça, quand on se protège? Bien, on n'est pas capable d'aller aimer la personne. On se protège. Et dès que tu te protèges, tu ne peux pas aimer comme Jésus. T'es fermé. Exactement. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que Jésus, il faut qu'il guérisse des choses et qu'il nous libère de ces murailles-là pour agir comme lui. Et finalement, dans Matthieu 25, on voit que Jésus, à la fin des temps, bien, il dit que comment on se traite dans la famille de Dieu, il rajoute un autre élément, c'est que c'est pas juste de regarder au cœur de la personne, mais ce qu'il dit, si tu as donné un verre d'eau à un de ses petits, mais de mes frères, tu l'as donné à qui? À Jésus. Oh, oh! Fait que là, on rajoute un autre élément, c'est que ce n'est pas juste de regarder comme Jésus à la personne, la précieuse personne qu'elle est, et de ne pas s'arrêter à son apparence, son comportement, ses méfaits, etc. Mais la façon que je vais la traiter dans la famille de Dieu, c'est que je traite Jésus comme ça. Donc, est-ce que je traiterais Jésus comme je te traite toi? Est-ce que je parlerais à Jésus comme je te parle à toi? Est-ce que je me permettrais de me choquer puis de te faire chanter des bêtises si c'était Jésus? Est-ce que je me permettrais d'être complètement insensible à un frère et une sœur si c'était Jésus? Mais c'est ce que Jésus dit. La façon que vous vous traitez, là, c'est moi. C'est moi que vous traitez comme ça. Donc, le premier élément, c'est ça, c'est l'accueil. Et on a pris un engagement ensemble, ceux qui étaient là la semaine passée. Allez prendre ça sur Internet si ça vous intéresse. Ce matin, on aborde le deuxième point qui est l'humilité spirituelle. Je vous invite à tourner avec moi dans Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2. Plusieurs d'entre vous connaissent bien ce passage. Puis, je vais le lire encore une fois dans la version Sommaire, parce que je trouve que c'est plus facile à comprendre. Si c'est trop difficile de suivre dans votre version, bien, faites juste écouter. Philippiens. Donc, Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, chapitre 2, verset 1. C'est l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens à Philippe. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'Esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. On va s'arrêter là pour tout de suite. Tantôt, on va reprendre au verset 5, OK? Prions. Seigneur notre Dieu, grand roi de l'univers, c'est devant toi, Seigneur, que nous nous courbons ce matin. Nous voulons reconnaître que tu es le seul roi de l'univers. Seigneur grand Dieu, tu es revêtu de splendeur, de lumière, de majesté, souverain créateur du ciel, de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y meut. On veut t'adorer ce matin. On veut t'apporter notre louange, notre adoration, Père. Et Seigneur Dieu, ce matin, on te demande, par ton esprit, de venir nous parler, nous fortifier puissamment pour qu'on puisse saisir ta pensée pour nous. Oui, Seigneur Dieu, Saint-Esprit, souffle sur nous. Souffle sur nous des 80. Purifie-nous de toute souillure et révèle-nous la pensée intime du Père pour la gloire de Christ Jésus. Amen. Aimez-vous être en la compagnie de personnes humbles? Ça arrive pas souvent. Je vais vous poser la question autrement alors. Aimez-vous être en la présence d'une personne orgueilleuse?
Non.
Absolument pas. Hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis, qu'est-ce que l'humilité au juste? En as-tu une définition claire? Quelle en est la définition selon la parole de Dieu? Quelle en est l'importance pour notre Papa Céleste, l'humilité? Et si tu comprends toutes ces choses, comment arriver à devenir une personne humble? Est-ce qu'en réalité, la plupart du temps, on aimerait avoir la réputation d'être humble, ou du moins pas orgueilleux, mais de devenir réellement humble, ça nous intéresse moins? De quelle façon ça se vit dans les relations avec les gens de la famille de Dieu ou ceux qui n'en font pas encore partie? Ce sont toutes des questions que je me suis posées. Et voici la phrase sommaire du message ce matin. L'humilité spirituelle exemplifiée par Jésus et cette attitude de cœur qui m'amène à me voir comme petit, à me laisser diriger par le Saint-Esprit, afin que le Père et ses enfants soient mis en avant et non ma personne, mes capacités, mes désirs ou mes projets. C'est la phrase sommaire de tout le message. Fait que si vous n'avez pas de temps ce matin pour rester, vous faites partir. Pourquoi l'humilité est-elle si importante pour Dieu le Père de notre famille? On est en train de considérer les relations à l'intérieur de la famille de Dieu. C'est ce qu'on va voir ce matin en quatre points. Voici les quatre points. Définition des termes, l'enseignement de Jésus, l'exemple de Jésus et l'humilité essentielle aux bonnes relations dans la famille de Dieu. Premièrement, selon le dictionnaire, l'humilité, c'est la reconnaissance de ses limites et de ses capacités en faisant preuve de modestie. Bon, là, il faut aller voir c'est quoi la modestie. La modestie, c'est de la retenue dans sa façon de parler ou de se comporter, de ne pas chercher à se faire remarquer, à briller. Et les synonymes, c'est la simplicité, le respect pour l'humilité, et contraire, orgueil, prétention, suffisance, arrogance. Bon, mais comme c'est le cas dans bien de domaines, le concept de l'humilité dans la Bible est plus profond et diffère de celle du dictionnaire des humains. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les humains, ce ne sont pas eux qui ont inventé le concept de l'humilité. Dire que l'être humain a inventé cette valeur, ce serait comme dire qu'un tigre a inventé le régime végane. Les êtres humains n'ont pas tendance à rechercher l'humilité et ce ne sont pas eux qui ont inventé cette valeur-là, c'est Dieu. Donc, la définition biblique est autre. La définition biblique, dans le Nouveau Testament, le mot « humilité » traduit le terme grec « tapenos » et littéralement, ça signifie « de position basse », une dépression de la nature, pas dépression psychologique, mais dépression de la nature, une position basse, OK? Littéralement. Figurativement, un abaissement en circonstance ou en disposition, OK? Fait qu'on a l'idée de abaissement, position basse, c'est ça? Et l'humilité d'esprit, tapeino frosuné. Donc, Jean Calvin ici nous dit, un grand théologien du 16e siècle, a dit, « D'autre part, c'est chose notoire que l'homme ne parvient jamais à la pure connaissance de lui-même jusqu'à ce qu'il ait contemplé la face de Dieu et qu'il descende de cette contemplation pour s'observer lui-même. » Si on parle de position basse, eh bien, c'est par rapport à qui? Par rapport à quoi? C'est ça, exactement. Nous, les êtres humains, nous sommes experts, vous et moi, à trouver là où les personnes qu'on considère comme étant orgueilleuses, de se comparer à eux et de se dire, ben moi, je ne suis pas orgueilleux. Donc, je dois être, par défaut, humble. Et bien que l'orgueil soit le contraire de l'humilité, on n'est pas humble par défaut. Ça, c'est un point important. On va voir, on va développer ça. On ne devient pas ou on n'est pas humble par défaut d'orgueil. OK? La Bible nous indique clairement, comme nous dit Fernand tantôt, c'est en relation avec Dieu qu'il faut en premier se positionner. Parce qu'on parle d'humilité, que c'est une position d'abaissement, une position de bassesse, mais en rapport avec quoi? C'est quoi la référence? La référence, c'est Dieu. La référence, c'est Dieu. Puisque ce Dieu, le souverain créateur de l'univers, de tout ce qu'il contient, les lois invisibles et immuables qui le régissent, de toute créature physique ou spirituelle, bien ce Dieu-là règne en empereur suprême sur notre univers. Il devient clair qu'il est en haut. Et toi et moi, cher ami, nous sommes en bas. L'humilité débute par cette réalisation que tu n'es pas Dieu, je ne suis pas Dieu, mais que notre tendance naturelle, c'est de vouloir l'être. Qui a déjà vu Dieu? Personne. Mais l'apôtre Jean nous dit dans le premier chapitre de son évangile que personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils nous l'a quoi? Révélé. Donc, on en vient maintenant à notre deuxième point, après la définition des termes, à regarder l'enseignement de Jésus sur ce point-là. Encore une fois, je reviens à l'enseignement de Jésus et à l'exemple de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est notre maître. Jésus a enseigné à ses disciples lorsqu'ils étaient dans des noces, lorsqu'ils seraient invités à des noces, de ne pas faire comme les autres qui cherchent d'emblée la plus belle place près de l'autre, puisqu'un personnage plus important pourrait arriver et l'autre te demanderait de céder ta place. Non, dit Jésus, prends la place, la dernière place, et peut-être que l'autre, en arrivant, te verrait, te dirait, mon ami, viens, monte plus haut. Car, dit Jésus, celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, est-ce qu'il parlait juste des positions au niveau des noces, quand on va dans les noces? Non, hein? Il utilisait cette situation-là pour nous enseigner sur l'humilité, l'importance de ne pas s'élever nous-mêmes. Par contre, tout dans la société d'aujourd'hui te pousse à faire quoi? À t'élever toi-même, à te mettre en avant. Et même à te considérer comme un dieu ou une déesse. Un autre exemple de l'enseignement de Jésus, Jésus raconta aussi la parabole de deux hommes qui montèrent au temple pour prier. Un pharisien, un leader religieux, et un publicain. Un publicain, c'est qui? On a vu ça la semaine dernière. C'est des collecteurs d'impôts, des juifs, mais qui travaillaient pour l'Empire romain. Donc, traîtres. Le plus bas niveau là, pour la société juive, rejeter vraiment des escrocs. Mais là, ces deux hommes-là montent au temple. Imaginez-vous, là, l'histoire de Jésus, le tableau qui brosse. Bon, tout le monde s'attend à ce qu'un pharisien monte au temple pour prier. Mais le publicain qui monte au temple, bien, voyons donc. Mais vous connaissez peut-être l'histoire, hein? Le pharisien, l'homme religieux, il se met à prier puis il dit, « Je te remercie, oh mon Dieu, que je ne suis pas comme les autres hommes, des escrocs, puis des adultères, puis tatati, patatata, puis moi je jeûne, puis je fais ci, je fais ça, puis tout ça. Hein? » Puis après ça, il dit, le publicain, le collecteur de pots, qu'est-ce qu'il faisait? Il n'osait même pas regarder au ciel. Il dit, « Seigneur Dieu, aie pitié de moi, le pécheur. » Et le Seigneur Jésus a dit, qui a été entendu? À qui Dieu a-t-il fait grâce? À qui Dieu a-t-il vraiment pardonné les péchés? Il dit, c'est le publicain. C'est pas l'homme religieux. Et il termine sa parabole en disant ceci, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Encore! Pratiquement exactement la même phrase. Wow! Il y a un enseignement important ici du maître, n'est-ce pas? Il y a un enseignement important du maître ici pour toi et moi. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que Dieu serait humble? Est-ce que Dieu est humble? Sinon, pourquoi ce serait important pour lui, cette valeur-là? Est-ce qu'on peut descendre la liste de tous les points de notre alliance et dire que le Père et le Fils ont déjà démontré ces traits? Oui. Accueil, amour, réconciliation, etc., etc. Alors, pourquoi pas l'humilité? On est un petit peu inconfortable. Je vous sens inconfortable là-dedans, puis je vous comprends. Dire que Dieu est humble, pas sûr, Brian. OK, ben, peut-être qu'on n'a pas la bonne définition ou on n'a pas la bonne conception de c'est quoi être humble, OK? Mais on va regarder ça. Qui nous révèle le Père déjà? C'est le Fils Jésus. Qu'a fait Jésus? Donc là, on s'en vient à l'exemple de Jésus. On a vu l'enseignement de Jésus, on s'en vient à l'exemple dans sa vie. Lors du repas de la Pâque, le dernier souper avec ses disciples, personne n'avait pris l'initiative de laver les pieds des autres en entrant dans la maison, tâche qui revenait le plus souvent à un serviteur de la maison. Hein, les gens se promenaient en sandales toute la journée, vous avez déjà sûrement entendu ça. À la fin de la journée, ils rentraient, puis leurs pieds étaient tous poussiéreux, leurs jambes et tout ça. Et souvent, il y avait un serviteur ou quelqu'un de la maison qui les accueillait à la porte et qui lavait les pieds avant de rentrer. Mais là, il n'y a pas de serviteur. Il n'y a personne. Ce sont juste Jésus puis les 12 apôtres. Ils arrivent là, puis imaginez la scène, là. Pierre, il a les pieds pas mal sales, là. Jean aussi, Carl. Ah non, c'est pas moi qui vais laver les pieds, là. Il n'y a personne pour laver les pieds ici. Voyons. Les deux disciples qui ont organisé la fête, là, ils ont mal fait leur travail. Ils n'ont pas pensé à ça. Qui va laver nos pieds? Il n'y a personne pour laver les pieds. Pensez-vous que Jésus avait remarqué ça? Oui, je pense que oui, hein? Qu'est-ce qu'il fait Jésus? À la fin du repas, il ôte sa tunique. Il ôte sa tunique. Donc là, on a juste les sous-vêtements, là. Déjà là, humiliation. Il prend une serviette, il l'attache autour de sa taille, il prend un bol d'eau, il se met à se promener d'un disciple à l'autre pour leur laver les pieds. La tâche d'un serviteur. Maintenant, je sais qu'il y a une signification plus profonde et spirituelle à ce geste, comme on le voit par l'échange avec Pierre après. Mais à la base, OK? À la base, Jésus a fait preuve d'amour et d'humilité pour s'abaisser à faire ce que personne d'autre ne voulait faire. Pas vrai? À la base, Jésus a fait preuve d'humilité, lui, le Fils unique de Dieu, venu nous révéler le Père. Alors, je vous repose la question. Est-ce que Dieu est humble? Dieu est humble. Wow! Et qu'est-ce que Jésus dit par la suite? Il dit ceci. Avez-vous compris ce que je viens de faire? Oui! oui, on comprend. Vous m'appelez maître et seigneur et vous avez... raison. Oh, OK. Vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi en vous, envers vous. Ça veut-tu dire qu'on va se laver les pieds littéralement les uns ou les autres? Non, c'est une idée qu'on peut s'abaisser pour prendre soin des autres et accomplir des tâches peut-être ingrates que personne n'a pensé à faire. On fait un souper, la vaisselle est toute empilée sur le bord du comptoir, sur le bord de l'évier, puis tout le monde regarde ça, puis il passe à côté. Qui va faire la vaisselle? Oh, pas moi, je ne suis pas moi de faire la vaisselle. Tu penses que je vais faire ça, moi? Qui va faire ça? Qui va ressembler à Jésus? La personne qui va dire, il n'y a personne qui a fait la vaisselle, je vais la faire. Je vais la faire, moi. C'est cette personne-là qui ressemble à Jésus. Et ça, mes amis, c'est l'humilité. Maintenant, l'humilité, ce n'est pas de s'abaisser, de se mépriser ou de se dégrader. Comment je peux être sûr de ça? Jésus, qu'est-ce qu'il dit ici? Hé, les gars, vous m'appelez Seigneur et Maître, hein? Vous avez raison, parce que je le suis. Jésus, en enlevant sa tunique puis en prenant la serviette, il ne s'est pas dévêtu de son statut de maître et seigneur, de son identité du Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Il a revêtu par-dessus ça une identité de serviteur. Et même, c'est parce que Jésus connaissait sa vraie identité et sa vraie valeur au Père de Dieu qu'il a pu faire ça. Parce que si tu n'es pas sûr de qui tu es dans ta personne, là, si ta personne, ton identité, ta valeur dépend de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas ou de tes capacités ou de tes connaissances ou tout ça, c'est ça ton identité, jamais tu ferais ça. Pourquoi? Penses-tu que je vais faire ça, moi? Penses-tu? Pourquoi pas? Parce que ça serait dégradant. Dégradant, t'as-tu compris? Dégradant, non, je ne ferai pas ça. Puis je n'irai pas laver les fenêtres aux gens en ville, là, à j'aime mon voisin, t'as-tu compris? Parce que c'est dégradant, ça. Ça témoigne de quoi, ça? Ça témoigne que ta valeur et ton identité n'est pas sécure en Dieu. Parce que si elle était, tu serais capable de faire les choses dégradantes et ça ne te dérangerait pas. Ça ne t'atteindrait pas. C'est justement ce que Jésus dit. Au début de ce chapitre-là, dans Jean 13, c'est marqué que Jésus, je vais vous lire là, c'est trop important. Jean 13, 1. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna à son aux siens qu'il aimait et qui était dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas de la Pâque. Déjà le diable avait mis semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Regardez verset 3. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès du Père et qu'il allait retourner auprès de lui. Il se leva de table, posa son vêtement, prit une serviette et commença à laver. Voyez-vous, Jésus savait qui il était. Il savait qu'il était en relation avec Dieu son Père. Son identité et sa valeur étaient sécures en Dieu, dans sa relation avec Dieu le Père. Et c'est ce qui a permis qu'il a pu s'humilier et se mettre au service de ses disciples, qui, eux, se trouvaient trop importants pour faire ça. Trop importants. Ben non, c'est pas moi. Pierre, il peut le faire, lui. Donc, l'humilité, ce n'est pas de s'abaisser dans le sens de se dégrader, se déprécier ou se mépriser. Ça n'a rien à voir avec l'humilité. Au contraire, dans ce passage, il nous est dit que Jésus savait qu'il était venu de Dieu, qu'il allait retourner auprès de lui et que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Toutes choses. Autrement dit, il connaissait sa vraie identité, sa vraie valeur, qui avait leur source sécure en Dieu. Vous vous rappelez lorsqu'on avait regardé les semaines passées au fait que nous ne sommes plus esclaves, mais enfants libres, hein? On avait vu à ce moment que Jésus nous invite à venir à lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Le repos. Il dit, prenez sur vous mon joug et apprenez de moi, car mon joug est facile et mon fardeau est léger, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car, il dit, je suis doux et humble de cœur. Est-ce que Dieu est humble? Jésus le dit. Je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos de vos âmes. T'aurais pensé, là, juste sur le moment comme ça, que d'être en présence de quelqu'un d'humble comme Jésus, c'est reposant. C'est reposant. Et c'est peut-être une question à se poser chacun d'entre nous. Est-ce que les gens, en ma présence, c'est reposant pour eux? Est-ce que c'est reposant? On va revenir dans Philippiens chapitre 2, ce qu'on a lu au début, OK? Philippiens chapitre 2. On est en train de regarder à l'exemple de Jésus. On a vu l'enseignement de Jésus en partie, hein? On aurait pu voir d'autres choses, mais juste un extrait. On est en train de regarder l'exemple de Jésus. On a vu, dernière part, qu'est-ce qu'il a fait. Et ici, au chapitre 2 qu'on a commencé, on reprend, on a vu les cinq premières versets, les cinq premiers versets. Il dit, « Ne faites rien par rivalité », verset 3, au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants pour vous-même, que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Verset 5, pourquoi? Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est de ce qui convient. C'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Lui, Jésus, qui dès l'origine était de condition divine, ne cherchait pas à profiter de l'égalité de Dieu avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition du serviteur. Il s'est rendu semblable aux hommes en tout point. et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. Il n'y a aucune histoire, il n'y a aucune instance dans toute l'histoire de l'humanité d'humiliation, un abaissement aussi important que cela. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'il est parti du plus haut, puis il s'est rendu au plus bas. De porter tes péchés, mes péchés, sur la croix. De subir, d'accepter de subir le jugement de Dieu contre toi, contre moi. Il n'y a pas de position plus basse que ça. De subir la peine capitale, de laisser couler le sang de ses veines, de laisser sa vie partir de son corps pour toi, pour moi. Lui qui était de condition divine, égal avec Dieu. Wow! Verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux et sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. La plus grande preuve que Dieu est humble se retrouve ici, mes amis, dans ce passage-là. Dieu est humble. C'est pourquoi il peut nous demander à nous d'être humbles. Il ne nous demande jamais, avez-vous remarqué ça? Dieu ne te demande jamais quelque chose qu'il ne serait pas fait, prêt à faire lui-même avant, en premier. C'est le cas. Dieu, Jésus, nous a pas simplement enseigné l'humilité, il nous en a donné le plus grand exemple de toute l'histoire du monde. Mais je reviens à la question du début. C'est quoi l'humilité encore? Est-ce l'absence de l'orgueil? OK. Si c'est le cas, je vais vous poser une question. L'accueil qu'on a vu la semaine passée, est-ce que c'est l'absence du rejet? Est-ce qu'on peut définir l'accueil comme l'absence du rejet? L'amour, est-ce que c'est l'absence de la haine? Est-ce que la bonté, c'est l'absence de la méchanceté? Est-ce que la joie, c'est l'absence de la tristesse? Alors pourquoi l'humilité serait l'absence de l'orgueil? Voyez-vous comment on est tordus, là, les êtres humains? On a tendance à définir, à considérer l'humilité comme quelque chose de passif, de nébuleux, de le définir comme l'absence de l'orgueil. C'est pas ça. Puis là, comme j'ai dit au début, on se trouve d'autres personnes plus orgueilleuses que nous. Puis ben, moi, je suis pas comme eux autres, fait que je dois être humble. Je suis humble, moi. On définit l'humilité négativement comme l'absence de l'orgueil. Mais non. L'humilité, comme toutes les autres belles valeurs de Dieu, l'amour, la bonté, etc., l'accueil, ça se définit pas négativement. Ce n'est pas l'absence de... L'amour, ce n'est pas l'absence de la haine. Pas vrai? Si Dieu t'avait aimé, puis la définition, c'était l'absence de la haine, là. Jésus ne serait pas venu mourir pour toi, là. Voyez-vous? L'amour, c'est quelque chose d'actif. La bonté, c'est quelque chose d'actif. L'accueil, c'est quelque chose d'actif. L'humilité, c'est quelque chose d'actif. C'est quelque chose d'actif. Ici, on voit dans la personne de Jésus que c'est quelque chose d'actif. Il y a un abaissement volontaire devant la présence glorieuse de Dieu, motivé par l'amour pour Dieu son Père et pour le bien des autres, pour la gloire de Dieu. C'est actif, mes amis, l'humilité. Tu ne peux pas juste te considérer humble parce que tu penses que tu n'es pas orgueilleux. Jésus est l'être le plus humble de l'univers. Jésus est Dieu et c'est Dieu l'être le plus humble. Ça, on a vu ça, s'abaisser, ce n'est pas de se dégrader, se déprécier ou se mépriser, pardon. Cela n'a rien à voir avec l'humilité. Jésus connaissait sa vraie valeur, son identité en Dieu. On a tout vu ça. Bon, on vient au dernier point. L'humilité essentielle aux bonnes relations dans la famille de Dieu. C'est beau tout ça, je comprends. Maintenant, Brian, tu dis, mais c'est quoi le rapport avec les relations dans la famille de Dieu? Bien, j'aimerais vous présenter un contre-exemple. On a vu un exemple, on a vu l'exemple de Jésus-Christ. Je vais vous présenter un contre-exemple. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, si vous voulez tourner, sinon écoutez, je vais lire quand même assez rapidement. C'est un long passage, mais c'est pour, je n'en ferai pas l'analyse là, complète, mais je veux quand même lire ce passage-là pour vous donner l'exemple. OK? 1 Corinthiens 3. Donc, c'est Paul qui écrit à l'église de Corinthe. Il dit, « En réalité, frères et sœurs, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme des hommes spirituels. » Dans la version sommaire, c'est des hommes conduits par l'esprit. C'est ça que ça veut dire, spirituel. Des fois, spirituel, ça peut être nébuleux, là. C'est conduit par l'esprit. C'est ça que ça veut dire, d'être spirituel. J'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes charnels dans la plupart des versions. Qu'est-ce que ça veut dire? Des hommes livrés à eux-mêmes ou tout naturels, qui vivent selon leur ancienne nature. Okay? Paul, il dit, je n'ai pas pu vous parler comme à des gens conduits par l'esprit. Oh! Pourquoi? Mais on va le voir pourquoi. J'ai dû vous parler comme à des gens qui vivent selon leur propre nature humaine. Comme à des petits-enfants dans la foi au Christ. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors. Et même aujourd'hui, vous êtes encore incapables de la supporter. Ça nous fait réfléchir. Je suis dans quelle catégorie, moi? Parce que vous êtes comme des hommes charnels ou livrés à eux-mêmes. En effet, pourquoi il dit ça? Lorsque vous vous jalousez les uns les autres et que vous vous disputez, n'êtes-vous pas semblable à des hommes charnels, livrés à eux-mêmes? Ne vous comportez pas comme d'une manière toute humaine? Lorsque vous dites « Moi, je suis pour Paul » et l'autre « Moi, je suis pour Apollos », n'agissez-vous pas comme les autres hommes? Après tout, que sont donc Apollos et Paul? Des serviteurs? Grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croire. Ce qui est arrivé en Corinthe, c'est que Paul est arrivé là en premier, il a annoncé l'Évangile, beaucoup de gens sont venus au Seigneur. Paul est parti, qui arrive sur scène, Apollos, Apollos prêche encore, d'autres gens viennent au Seigneur. Fait que là, dans l'Église, là, vous avez du monde qui dit, « Hey, sais-tu quoi? Moi, c'est Paul qui m'a évangélisé. » L'autre, « Hey, moi, c'est Apollos. Moi, je suis d'Apollos. » Ah ouais, puis Paul, il disait ça. « Ouais, mais Apollos, il disait ça. Ouais, puis ouais, moi... » Fait que là, il y avait des camps, là. Puis l'autre disait, « Ben nous, on est de Christ. » Sais-tu quoi? Quand j'étais jeune, je pensais, eux autres, ils avaient raison. Mais ils n'avaient pas plus raison. Pourquoi? Parce qu'ils s'enorgueillaient, puis ils se voyaient supérieurs aux autres. Puis ils créaient des divisions. Verset 7, « Peu importe en fait qui plante et qui arrose, Paul dit, qu'est-ce qui compte, c'est que c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous, vous êtes le champ qu'il cultive, ou encore vous êtes l'édifice qu'il construit. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un ou d'autre bâtit sur ce fondement. » Seulement que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, Paul dit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du chaume, du torchis de paille, mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire ou sa récompense. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui réussit à échapper au feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Paul ici parle de l'Église. Okay? Il parle de l'Église. Il s'adresse à l'Église. Ce n'est pas personnel ton corps, là. C'est l'Église. L'Église est le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite dans cette Église. Si quelqu'un détruit le temple, l'Église, Dieu le détruira. Car son temple est saint et vous êtes ce temple. Que personne ne fasse d'illusion sur ce point. Si quelqu'un parmi vous se croit sage sur les critères de ce monde, qu'il devienne fou avant de devenir véritablement sage. Ici, là, c'est excessivement important ce que Paul dit. Il y avait des divisions dans l'Église. Il y en a qui prenaient pour Paul, il y en a qui prenaient pour Apollos. Ce n'est pas Paul et ce n'est pas Apollos qui faisait ça. Ce n'est pas eux autres qui soutenaient ça. C'est l'orgueil du cœur qui faisait que les gens disaient ça. Est-ce que ça arrive en nos jours, là? Non, hein? Moi, je suis pour John MacArthur. Ah, moi, je suis pour lui. Ah, moi, je suis pour lui. Ah, moi, je crois au vaccin. Moi, je ne crois pas au vaccin, là. Et là, et on crée des divisions. Et Paul dit, si tu crées des divisions, là, tu es en train de détruire le temple de Dieu. Moi, durant la pandémie, là, je shakais dans mes bottines. Savez-vous pas? Pourquoi? Pas peur du virus. Je shakais dans mes bottines, ça, c'est une expression québécoise, les gars. Hein? On va dire, trembler, là. Pourquoi? Parce que je voyais des gens créer des divisions dans l'Église de Christ. Basé sur quoi? Pas sur la parole de Dieu, là. Basé sur une opinion face à des circonstances extérieures. Ils prenaient l'unité du corps de Christ basée sur le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, jetaient ça par la fenêtre et disaient, toi, là, je vais t'accepter si tu penses comme moi. Peu importe du camp, là. Si t'es pour ou t'es contre. Je shakais dans mes bottines de voir ça. Ces gens-là détruisent le temple de Dieu. C'est sérieux, là. Puis ce matin, si tu entends la voix de Dieu dire, t'as fait ça, là, je t'en supplie, repens-toi, là. Demande pardon à Dieu pour ça. Demande pardon pour Dieu, de Dieu avoir fait ça. Parce qu'ici, il dit que celui qui touche au corps de Christ, qui détruit le temple, pour quelle raison? Pour des raisons personnelles, des enjeux personnels. C'est extrêmement grave, frères et sœurs. Et j'espère que si un jour on traverse une situation semblable à ça, qu'on aura appris des leçons. Là. Qu'on aura appris des leçons. Plus loin dans cette lettre, on voit qu'il y a beaucoup d'autres problèmes dans l'Église. Beaucoup d'autres problèmes dans l'Église. Immoralité, désordre lors des cultes, murmures, dissensions, compromis avec les idoles de l'époque, abus des dons spirituels. Mais la base de tous ces problèmes était quoi? L'orgueil. L'orgueil. C'est une Église ravagée par les effets de l'orgueil, OK? Divisée. Ils ne sont pas conduits par l'Esprit, Paul dit. Vous n'êtes pas conduits par l'Esprit, hey! Hey! Pour des enfants de Dieu, mais par leur propre désir d'importance, de prestige, d'honneur. Ils ne sont pas préoccupés du tout du royaume de Dieu, mais avec leur propre petit royaume. En fait, l'orgueil a été le tout premier péché commis dans l'histoire de l'univers, hein? Vous savez. Alors que Satan, cet ange chérubin protecteur, le plus beau et le plus puissant des créatures de Dieu, s'est vu dans le miroir un jour et s'est trouvé pas mal beau. Ouais, oui, madame. C'est ce que la parole de Dieu dit? Exactement ça. Exactement ça. Bien, pas le miroir, mais il s'est vu comme très beau et il s'est centré sur lui-même, tellement beau, tellement capable, qu'il s'est dit en lui-même qu'il pourrait même jusqu'à détrôner Dieu puis aller régner à sa place. Ça, vous avez ça dans Ézéchiel 28, 1, 17. Alors, quelle est l'importance de l'humilité dans les bonnes relations dans la famille de Dieu? L'apôtre Pierre nous dit, dans son épître, il dit, « Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église, et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité. Car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Vous, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église. » Jusque-là, pas de problème. Mais vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité. Revêtez-vous d'humilité. Parce que l'Écriture dit, Dieu fait quoi? Il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Il y a une promesse ici. Il y a une promesse. Avez-vous lu la promesse? C'est quoi la promesse? Oui. C'est la grâce. Dieu accorde, il promet, c'est une promesse, il promet d'accorder sa grâce à qui? Aux humbles. Souvent, dans cette lecture-là, on a focusé beaucoup sur le fait que Dieu résiste aux orgueilleux. Moi, le premier, là. Okay? On a mis beaucoup d'emphase là-dessus. Mais on a oublié qu'il y a une belle promesse ici. La grâce. Dieu accorde sa grâce aux humbles. Maintenant, j'ai une question. Est-ce qu'on a besoin de la grâce de Dieu pour vivre ensemble dans l'Église? Je ne sais pas pour vous, là. Mais oui, moi, c'est le cas. Dieu résiste aux orgueilleux. Il s'oppose même. Ouf! Mais il fait grâce aux humbles. Dieu nous a promis. Il m'a promis, il t'a promis d'accorder sa grâce si on s'approche de lui avec humilité en se voyant petit. Donc, cette grâce-là, pourquoi? Elle est essentielle aux bonnes relations parce qu'on a besoin, l'humilité, on a besoin pour recevoir la grâce, pour vivre en communauté. Hein? Et deuxièmement, parce que l'orgueil peut gagner nos cœurs. Et quand l'orgueil gagne nos cœurs, qu'est-ce qui se passe? Dieu s'oppose. On s'éloigne de Dieu. On s'éloigne de Dieu, on s'éloigne des autres et on les éloigne aussi. Vous avez dit tantôt au début là, que vous n'aimez pas ça être en présence d'une personne orgueilleuse. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment être dans votre présence? Pas tant que ça? Ça se peut-tu qu'un petit problème d'orgueil? L'orgueil nous éloigne de Dieu, nous éloigne des autres et en plus nous aveugle sur toutes sortes d'autres péchés dans nos vies. C'est ce qui était le cas dans 1 Corinthiens, dans l'Église de Corinthiens. Et subtilement, l'orgueil commence à envahir notre être, à empester nos relations avec nos frères et sœurs, et c'est le désordre dans l'Église, c'est les divisions. Mais ce qui est remarquable, c'est que lorsqu'on s'approche de Dieu avec humilité, on découvre à quel point il nous aime, il nous affectionne, et on retrouve tout comme Jésus notre vraie identité, notre réelle valeur en lui. C'est ce qui permet d'être humble réellement, de prendre une position basse avec nos frères et sœurs dans la famille de Dieu, de devenir serviteur, de faire les choses que personne d'autre n'a voulu ni pensé faire. Ah non, ça, là, vaisselle, là, c'est pas à moi de faire ça. D'accepter de devenir un « nobody ». Un « nobody » en anglais, c'est quelqu'un qui n'a pas de statut, qui n'a pas d'importance. Accepter. Jésus, le Fils éternel du Dieu très haut, a accepté de devenir un « nobody ». Un sans statut. Même un maudit. Exactement. Merci. Même un maudit pour toi. et pour moi. Et c'est là le secret des relations saines et harmonieuses dans la famille de Dieu. De mettre les autres, Dieu et les autres, en premier, et non pas ma personne, mes capacités, mes désirs et mes projets. Quelqu'un a déjà dit, ça ne vient pas de la parole de Dieu, mais il y a quand même un principe là-dedans qui vient de Dieu. Si chacun cherche ses propres intérêts, tout le monde n'aura qu'une personne qui le fait. Mais si chacun cherche les intérêts des autres, alors tous auront plusieurs personnes qui recherchent leur intérêt. Avez-vous compris? Je le répète. Si chacun cherche ses propres intérêts, bien, tout le monde aura juste une personne qui le fait, soi-même. Mais si chacun cherche les intérêts des autres, tous auront plusieurs personnes qui recherchent leurs intérêts. Amen. Oui. Oui, effectivement. L'amour sous-tend toutes ces valeurs-là. C'est un bon point, excellent. Parfois, j'aime me promener en dehors de la région, en dehors de mon pays, là où personne ne me connaît, parce que je peux vraiment être juste moi-même et ne pas tenter de répondre à une image que les gens ont de moi ou peu importe. C'est ça la liberté. C'est d'être toi-même, mais toi-même devant Dieu, la personne que Dieu te voit comme étant. Par contre, je vous avoue qu'assez souvent, je réagis avec colère ou orgueil face au traitement injuste ou perçu comme injuste ou le traitement piètre que les gens nous offrent parfois en me disant « Il ne sait pas je suis qui, moi. » Wow! L'orgueil nous rattrape rapidement, hein? L'orgueil nous rattrape rapidement. La promesse de Dieu de nous accorder sa grâce si on s'approche de lui avec humilité, en se voyant petit, on a besoin de sa grâce pour vivre nos relations. L'orgueil nous éloigne de Dieu et des autres, nous aveugle sur tous les autres péchés. En conclusion, je me tiens devant vous, frères et sœurs, chers amis, non pas comme un homme qui est arrivé, mais un homme qui se reconnaît comme orgueilleux, besoin de la grâce de Dieu. Et je vous dis, ce que je vous ai dit ce matin, c'est la parole de Dieu. Elle s'applique premièrement à moi. L'humilité, c'est l'attitude d'un cœur qui s'abaisse volontairement, activement, devant la présence sainte et glorieuse de Dieu. Elle n'est pas l'absence de l'orgueil, bien que son opposé. Elle s'accompagne d'une promesse de la part de Dieu, celle de recevoir sa grâce. Le mot « grâce » a plusieurs sens. Ça veut dire un don. Le mot grec, c'est « charis », qui veut dire un don. Mais Dieu fait des dons de plusieurs différentes sortes. Quand on dit « la grâce », ça peut être le pardon. Hein? Dieu t'a gracié. Il t'a fait la grâce du pardon. Ça, c'est une grâce. C'est un don, le pardon. Ça peut être le soutien, une grâce de soutien, un don de soutien quand on a besoin. Hein? Ça peut être quoi encore? Ça peut être son aide. Son aide. Ça peut être son réconfort. Ça peut être plein de choses comme ça. Et Dieu nous promet que si on s'approche de lui avec humilité, il va nous accorder la grâce dont on a besoin. Elle nous amène l'humilité à nous laisser conduire par Jésus sous son joug et par le Saint-Esprit. On n'a pas touché tant que ça à ce point-là. Possiblement qu'on va développer ça une autre fois. L'humilité détient aussi la promesse de permettre des relations saines et harmonieuses entre nous, frères et sœurs, dans la famille de Dieu. Dieu qui nous en a donné l'exemple suprême à travers Jésus. Veux-tu te joindre avec moi maintenant dans un engagement, prière d'engagement? Faisons-le ensemble, OK? Père saint et glorieux, tu es seul digne de toute louange et adoration. Je me courbe devant toi ce matin pour reconnaître que tu es Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je m'humilie devant ta présence glorieuse, ô roi de l'univers. Je m'engage à me positionner chaque jour devant ton trône, à recevoir de toi ma valeur et mon identité. Je désire me laisser conduire par ton esprit sous le joug du Seigneur Jésus et d'apprendre de lui qui est doux et humble de cœur. Je renonce à mettre en avant ma personne, mes capacités, mes désirs et mes projets pour vivre dans l'humilité avec mes frères et sœurs. Je m'engage à mettre ta personne, ton règne et ta famille en avant-plan pour la gloire de Jésus. Je réclame ta promesse de m'accorder ta grâce, ta faveur, Père, car j'en ai tellement besoin. À toi la louange, l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Avais-tu un chant pour terminer?